Un service du lundi au vendredi de 9h à 11h heure de Kinshasa avec Jody Daniel Kachama.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est pour nous un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité à Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Comment mieux organiser les enseignements à distance pour les élèves? On en parle aujourd'hui dans cette émission de la vie au quotidien avec Monsieur Hubert Kimbonza Sefou, inspecteur au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et nous aurons également Monsieur Serge Bondé, du secrétaire général de l'ONG Imae Young Association for Education et coordonnateur de la campagne école Eza Mombongote. Merci de votre fidélité à cette émission. Vous voulez participer, vous avez des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer le 081 890 63 94 pour participer à cette émission de la vie au quotidien. Et dans la deuxième partie de ce programme, nous allons parler de l'impact des sauts des moutons dans la circulation routière. Des questions et préoccupations, n'hésitez pas, le standard est déjà ouvert. Composez le 081 890 63 94. Alain Goy à la technique. Tati Mapoukou coordonne et réalise cette émission qui présente Jody Daniel Kachama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Ce sont les fêtes, restons vigilants. Le coronavirus nous guette. Ensemble, luttons contre la COVID-19.
Bien, les élèves du primaire et du secondaire sont en vacances anticipées dans le cadre du renforcement des mesures contre la deuxième vague de COVID-19 en République démocratique du Congo. Cette décision perturbe de nouveau le calendrier scolaire 2020-2021, troublé par la grève des enseignants à cause de la gratuité de l'enseignement. Pour maintenir et approfondir les apprentissages, le recours à la classe virtuelle ou l'enseignement à distance est plus que nécessaire, selon certains experts. Alors, comment mieux organiser l'enseignement à distance après l'expérience de la classe télévisée et radio-école? Pour en savoir plus, nous avons en ligne M. Hubert Kimbonza Sefou, inspecteur au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Hubert Kimbonza, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et Daniel Kachama.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également en ligne Serge Bondedi, qui est coordonnateur de la campagne École Eza Mombongote. Bonjour Serge.
Bonjour Monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission. Alors Monsieur Hubert, la première question est de savoir, aujourd'hui les enfants sont en vacances anticipées à cause de Covid-19. On ne sait même pas quand est-ce que ils vont reprendre le chemin de l'école, alors que l'année est déjà perturbée. La solution, d'après certains aujourd'hui, c'est l'enseignement à distance. Quel est votre avis à ce sujet?
Merci beaucoup Jody. Je pense que nous allons un peu faire un petit recul dans les temps. Au mois de mars 2020, nous avions tous suivi la grande décision qui était prise par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui avait demandé à ce que tous les apprenants et les enseignants restent à la maison pendant une semaine. Et après une semaine, nous avions constaté que la pandémie ne faisait que faire des ravages dans notre pays, et les chefs, par une autre mesure courageuse, feront en sorte que nous puissions passer à l'étape du confinement. Et nous avions tous vu qu'il fallait attendre 2 semaines. Après 2 semaines, c'était 4 semaines. jusqu'à ce que les cours ont repris un peu tardivement. Et si la mémoire est encore bonne, au mois d'avril, en son début, Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga Willima, va prendre pour la toute première fois de manière solennelle à la télévision d'Accré pour donner cours, pour dispenser cours. Et à partir de cet exemple, l'inspection générale, qui est les services techniques du ministère en charge de la formation, du contrôle et des évaluations, va prendre ainsi le bâton de pèlerinage, bien sûr, avec l'autorisation de Son Excellence le ministre d'État. Vous avez cité tantôt la classe télévisée au CAPI École. Il y a eu aussi certaines radios communautaires qui nous ont aidés pour que les cours soient dispensés. Et jusqu'à ce que nous avons connu cette reprise effective de cours, et nous avions atterri en toute beauté, et on avait fait ainsi clôturer l'année scolaire 2019-2020. Maintenant, nous voici devant un problème. Nous, on pensait que avec la première vague, tout était fini. Les nombres de décès, les nombres de personnes contaminées au niveau des hôpitaux diminuaient sensiblement. Oui. Et brusquement, on est allé à la hausse. Et vous savez, M. Jody, je vous dirai qu'un bon chef doit veiller sur sa population. Comme on le dit même dans un des livres sacrés, les bons bergers doivent veiller sur ses brebis.
Oui, Monsieur Hubert, permettez qu'on puisse accueillir un auditeur qui est en ligne depuis Kasumbalesa. C'est Serge Moubenechaï. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à l'enseignement à distance pour les élèves?
Voilà, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. À mon avis, pour ne pas perturber cette année scolaire, l'État congolais doit vraiment obliger à chaque chef de l'établissement, et le chef d'établissement aussi à son tour, doit aussi obliger à chaque élève de porter des masques. Et en plus, l'État congolais doit aussi faire le don à chaque école, les lavages et les savons des toilettes. Parce que oui, s'ils disent d'arrêter
le cours, Serge, Monsieur Serge,
pas seulement la perturbation, mais aussi les enfants.
Monsieur Serge, donc, les enfants sont déjà en vacances de manière anticipée. Donc, ils sont déjà à la maison. Alors maintenant, comme ils sont à la maison, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre. Alors, comment les occuper pendant ce moment-là?
Non, on ne sait pas comment. C'est la vacance. Quand la vacance sera faite, les enfants vont reprendre le cours. Ce n'est pas pour dire... Moi, je ne trouve pas que COVID-19 peut ravager toutes les écoles. Ça fait mal, nous, en tant que parents. Moi, voyez, par exemple, ici, dans la province de Katanga, il y a d'autres établissements qui sont privés. Et c'est les enseignants... Parce que moi, je ne suis pas un enseignant, mais il y a des enseignants qui vivent à partir des activités de motivation des parents. Est-ce qu'ils disent qu'ils vont arrêter les...
Mais la motivation des parents n'existe plus.
Les écoles. Comment les autres là-bas survivent?
La motivation des parents n'existe plus. Il y a la gratuité, c'est le gouvernement qui s'occupe des enseignants.
Oui, bien sûr, monsieur le journaliste, mais je vous assure, ici, dans la province de Haut-Katanga, tout 100%, je peux dire 95%, des établissements, ce sont des écoles privées.
D'accord.
Ils ne sont pas mécanisés.
D'accord.
Donc, on n'est pas là-bas. Le problème est sur la fermeture. Il ne faut pas faire ça, sinon on risque de... Un enfant qui allait avoir le diplôme à l'âge de 12 ans, 15 ans, il trouve maintenant le diplôme à l'âge de 25 ans. Voyez, ça freine.
D'accord, merci d'avoir appelé. Monsieur Hubert, qu'est-ce que vous pouvez dire à Serge de Kasumbalesa?
Merci beaucoup. En fait, effectivement, nous sommes déjà en vacances. Et lorsqu'on est en vacances, les enfants sont sous la charge des parents. C'est aux parents, en cette période, de veiller à ce que le port de masque soit vraiment une nécessité auprès de leurs enfants. Pour revenir maintenant au problème de la motivation, le chef de l'État, lors de sa campagne, disait que lorsqu'il sera élu chef, il n'y aura plus ces problèmes de motivation. Et à ce jour, nous sommes en train de voir les efforts qui sont fournis par les chefs pour que la gratuité soit effective et que tous les enseignants soient payés. Dernièrement, il y avait Bibois, On a travaillé, nous attendons que les dossiers puissent être finalisés. Pour revenir maintenant à notre sujet, je disais donc que le bon berger doit veiller sur ses brebis, raison pour laquelle il a pris la décision. Et avec cet ordre d'idée, s'il faut prendre la loi cadre, l'actuelle, hein, c'est-à-dire la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014, dans son introduction, lorsqu'on lit l'exposé des motifs, déjà, on voit au point 15, c'est-à-dire à la 15e innovation, il est question de l'introduction au sein de l'enseignement national des technologies de l'information et de la communication, facilitant notamment l'enseignement ouvert et à distance. Alors, à partir d'ici, nous remontons à l'article 9 du troisième chapitre, en son alinéa 16, on dit ceci, les options fondamentales de l'enseignement national sont, et au point 16 on dit l'enseignement à distance. Et lorsque l'on parle des options fondamentales, je pense que quand j'étais un coup d'œil dans les dictionnaires, on vous dit que c'est ce qui est en réalité principal ou essentiel. Avec cette idée, le chef de corps, c'est-à-dire l'inspecteur général de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Michel Djamba Kaombe, va alors prendre en date du 10 novembre 2020...
Monsieur Hubert,
la lettre... Oui.
Monsieur Hubert, quel bilan peut-on faire aujourd'hui de l'enseignement à distance? On a vu, il y a eu la classe télévisée à la RTNC, et puis Radio École. Quel bilan peut-on faire de cela?
Le bilan, effectivement, c'est moi qui ai conduit même les activités, je continue à les conduire jusqu'à aujourd'hui sur la classe télévisée. Le bilan est positif. Nous connaissons bien sûr certains problèmes d'ordre technique sur terrain, c'est-à-dire le manque peut-être de l'énergie électrique dans certains coins, le manque des téléviseurs, de postes téléviseurs dans certains foyers, mais d'une manière générale, nous sommes satisfaits parce que chaque jour, nous sommes en contact permanent et régulier avec tout le monde à travers la République, même à l'extérieur, à l'étranger, les gens qui nous appellent pour dire que nous suivons les cours, mais voici ce que nous vous prodiguons comme conseil pour son amélioration. Donc, le bilan est positif. Nous avons plus d'appels et nous continuons à aller de l'avant. Raison pour laquelle, à partir de ces inconvénients, ou plutôt de ces insuffisances, le ministère de l'EPST a signé un protocole d'accord avec un partenaire pour que l'enseignement à distance soit effectivement une réalité dans notre pays. C'était grâce à la lettre circulaire de l'IG. Et cette lettre demande à ce que tous les chefs d'établissement, tous les apprenants, tous les enseignants puissent utiliser cette seconde possibilité de l'enseignement qui est dite l'enseignement à distance, moyennant bien sûr les appareils ou la technologie ayant trait avec bien sûr l'informatique.
Bien, on va donner la parole tout à l'heure à Monsieur Serge Bondedi. Avant cela, nous allons accueillir un auditeur qui est en ligne. Eh bien, il nous écrit, c'est Dieu merci, Raymond depuis Béni. C'est un enseignant. Bonjour, Dieu merci.
Oui, bonjour Monsieur Jedi.
Bien, quelle est votre préoccupation par rapport à l'enseignement à distance?
Ok, merci beaucoup de m'accorder la parole. Je profite, je salue notre auditeur, je salue aussi notre invité de la radio Capi. Alors, j'ai une préoccupation. Partant de ce premier sujet, j'aurai aussi une autre préoccupation au second sujet, ou soit au deuxième sujet. Alors, de ce premier sujet ici, quand on parle d'enseignement à distance, pour nous, je crois que c'est inaperçu, ou soit c'est vraiment absurde ici chez nous à l'Est, ou soit à Béni. Je pense que cet enseignement-là à distance ne concerne que la ville de Kinshasa. Parce qu'ici chez nous, si on dit que l'enseignement à distance est à distance, comment on peut parvenir à atteindre les profs, soit tous les écoliers, soit élèves qui se retrouvent dans la forêt, soit qui ne suivent pas la radio, qui n'ont pas de télévision, je ne sais pas comment. Est-ce que cet enseignement-là de qualité, à distance, c'est un enseignement permis par la pédagogie, soit c'est un enseignement qu'on a créé, je ne sais pas, pour les affaires riches ou soit pour ceux qui ont des télévisions, ceux qui suivent la radio. Alors, c'est vraiment une difficulté pour nous de comment on peut atteindre un élève ou soit un écolier qui se retrouve à une grande distance et qui n'a même pas un poste récepteur, qui n'a même pas la télévision. Bon, est-ce que cet enseignement-là, vraiment, c'est un enseignement de qualité ou soit c'est un enseignement rien que pour
une catégorie des
écoliers, une couche ou soit un rang social d'écolier.
Merci, monsieur Dieu merci, Raymond. Serge Bondedi, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup, monsieur Jody, pour le sujet qui est vraiment suffisamment assez pertinent. Comme société civile, fort dommage, deux années de suite, à savoir 2019-2020 et 2020-2021, des années pendant lesquelles le système éducatif congolais, même dans le monde entier, sont en train de connaître des sérieuses perturbations qui risque d'avoir des conséquences assez néfastes dans la formation des enfants. Je préférerais avoir comme point d'ancrage la question que vous avez posée à monsieur l'inspecteur Hubert, que je salue, sur le bilan de la classe télévisée qui est une forme de l'enseignement à distance. Et je crois que le 16 octobre dernier, Imaye, suite à toutes ces expériences, nous avions organisé une journée de mobilisation et de sensibilisation de partenaires éducatifs au cours de laquelle même l'État était représenté, où en ces temps-là, nous avions tiré cette sonnette d'alarme pour dire aux différents partenaires, le confinement est passé, mais la maladie est toujours sur nos murs. Et au-delà de la maladie à COVID-19, nous devrions nous mettre en tête que la loi qui a prévu, comme l'inspecteur a si bien dit, ce type d'enseignement qui est celui de l'enseignement à distance, mais le pays n'a pas suffisamment fait d'efforts. La maladie est là, mais on peut se retrouver face à d'autres situations, notamment situations de guerre, en zone de conflit, comme le cas de l'Ituri.
Oui.
Vous avez des cas de catastrophes naturelles, vous avez des cas de situations d'urgence. Un enfant qui connaît un accident de circulation routière, qui est obligé d'être cloué au sol pendant 2, 3, 4 mois. Qu'est-ce que nous devons faire pour réorganiser ce type d'enseignement à distance? Et nous sommes partis des évaluations, des expériences, notamment la classe télévisée, la classe radiodiffusée, le cours qu'on a donné, le contenu qu'on a envoyé par des réseaux sociaux, les exercices.
Et au même par mail, il y a des écoles qui ont envoyé les exercices par mail.
Les exercices par mail. Au cours de ces évaluations, nous avons dégagé un certain nombre de points, notamment la nécessité, et que d'abord il était impérieux de continuer les apprentissages, même pendant la COVID, parce que permettre aux enfants d'accéder aux apprentissages, c'est respecter quel est leur droit d'être éduqué. Ou encore, c'est permettre aux enfants d'exercer leur droit à l'éducation. Et la République démocratique du Congo étant Nations Unies, est contraint de permettre aux enfants d'être éduqués, même en situation de guerre, même en situation d'urgence, même en zone de conflit, ou en zone de guerre. Alors, mais nous avons néanmoins relevé que
Serge Bondedi, un instant, nous avons un auditeur en ligne, Albert de Mwananga, de Kananga. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour à notre invité.
Quelle est votre question par rapport à l'enseignement à distance?
Oui, comme je l'ai mentionné dans les commentaires sur Facebook, je disais ceci, ce fléau de la pandémie à coronavirus risque d'impacter négativement l'apprentissage des enfants congolais. Moi, je vais suggérer ceci à notre gouvernement, qu'il puisse un peu mettre les fonds nécessaires pour soutenir un peu les apprentissages des émissions qui donc à la radio, l'enseignement à distance à la radio. Ça serait bon parce que aussi quand on met ce système ou ce programme d'apprentissage à la radio, j'aurais souhaité qu'il y ait un peu une possibilité de mettre en œuvre les éléments nécessaires, surtout les gens qui doivent mener les enquêtes pour vérifier les taux d'écoute. Est-ce que réellement les enfants suivent les émissions dans les ménages? Et quel sera le taux d'écoute des enfants dans les ménages? Et si ce programme est mis en place vraiment, peut-être on pourra quand même relancer certaines choses que les enfants puissent un peu apprendre même à partir de la radio. Parce que dans les écoles, les mesures barrières ne sont pas respectées du tout. Les classes, il n'y a pas beaucoup de classes, les enfants dans une même classe, beaucoup. Donc, ce n'est pas du tout normal. C'est ça un peu ma préoccupation. Si le gouvernement peut mettre en œuvre ces programmes-là. Merci beaucoup.
Bien, merci Albert. Serge Bondedi.
Oui, je vais revenir sur M. Albert, mais si je peux finaliser ma pensée. Alors, au cours de ces évaluations, notamment de la classe, la radio et consorts télévisés, nous avons remarqué de négatif que dans ces anciennes expériences, le maître n'était pas au centre de l'éducation des élèves. Parce que c'est un aspect pédagogique assez important de laisser les élèves apprendre bien qu'à distance avec leur maître, parce que ça a beaucoup d'influence. Nous avons également trouvé qu'il y a un défi sur la fracture numérique en République démocratique du Congo qui peut-être constitue vraiment un défi qui ne favorise pas assez des choses. Il y a le problème de la desserte en électricité que l'inspecteur a parlé, mais il y a un aspect important qui manquait dans la classe télévisée et radiodiffusée, l'interaction entre les apprenants et le formateur, s'il faut prendre les concepts par approche des compétences. Il y a d'autres aspects également qu'on a relevés, les obligations d'équité, permettre à un maximum d'enfants d'accéder au contenu, même à distance. Il y avait également d'autres éléments par rapport au contrôle de l'inspecteur. Comment l'inspecteur peut contrôler l'enseignement à distance? Alors, il y a eu beaucoup d'éléments d'évaluation que nous avons dégagés au cours de cet atelier. Alors, nous avons donné des recommandations, notamment au gouvernement, de choisir un partenaire qui, en créant une plateforme d'enseignement à distance, laquelle doit avoir des fonctionnalités qui permet à ce que les préoccupations soulevées par la société civile et l'ensemble des partenaires éducatifs puissent être mises en compte. Alors effectivement, comme l'inspecteur a dit, le 10 novembre, par une lettre de l'inspecteur général dont il nous a copié, le ministère nous avait réellement informé et a choisi un partenaire, Smart App Company, si j'ai bonne mémoire, si j'ai oublié, l'inspecteur pourra me compléter, avec la plateforme e-class. Alors, c'est ça, en fait, ce que nous avons établi comme élément d'évaluation.
Oui. Et
nous avons également dit...
Cette plateforme va fonctionner avec la connexion Internet, c'est ça?
Oui, avec la connexion Internet, mais comme organisation de la société civile, nous sommes membres du réseau francophone de la lutte contre la marchandisation, mais l'État qui ne dispose pas d'outils. Nous avons, je crois, eu beaucoup d'échanges avec l'inspection pour demander à ce que cette connexion, comment faire, comment le gouvernement peut rassurer aux enfants d'accéder à la connexion au plus bas frais possible. C'est le travail que nous avons fait. Et comment permettre aussi aux parents d'avoir le contrôle parental dans cette plateforme, parce que nous sommes des Bantous dans la présentielle. Il y a beaucoup de faits qu'on ne souhaite pas, mais qui se passent souvent, notamment des relations extra-professionnelles entre enseignants et élèves. Il faudrait assez que dans cette plateforme, que les parents aient un droit de regard sur les échanges entre eux,
l'enseignant et les enfants. Oui.
Et les enfants. Et que le chef d'établissement également, aient le contrôle de ce qui se passe au niveau de l'école virtuelle. Donc, avec cette plateforme que le ministère nous a informé par la lettre circulaire, les écoles seront créées virtuellement, dans lesquelles il y aura des classes aussi virtuelles, dans lesquelles classe chaque enseignant aura un compte également avec les élèves. Donc nous, la société civile, nous avons également, une fois de plus, demandé qu'il y ait interaction, parce que on peut certes placer les contenus numériques, mais si les enfants lisent, comment échanger avec l'enseignant?
Oui.
Je crois que l'inspecteur général pourra me compléter pour beaucoup plus de détails.
D'accord.
Nous, je donne ce que nous avons donné comme élément au ministère pour que l'enseignement à distance soit réellement l'alternative pendant ces temps de catastrophes auxquels nous traversons.
Bien. Comment mieux organiser les enseignements à distance pour les élèves pendant cette période? Docteur Anissé Kipassa est en ligne depuis Kinshasa. Bonjour, docteur.
Bonjour Jody, bonjour aux intervenants et à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Jody, j'allais dire sans objet parce que Serge a dit quelque chose de très important. Félicitations à l'EPSP pour l'effort qu'ils ont eu avec l'enseignement virtuel. Mais, comme l'a dit Serge tout à l'heure là, ce qui a manqué, c'est la dénaturation de l'enseignement, de l'éducation par manque d'interaction entre l'émetteur et les bénéficiaires, c'est-à-dire entre le participant et l'apprenant. Ça, c'est très important. Alors que, je dis, dans toutes les guerres, l'après-guerre, ce sont des révolutions sur le plan technologique, même sur le plan de l'enseignement. Déjà, même avant la COVID, qui va changer beaucoup de choses, il y a, dans d'autres cieux, les enfants ne vont même pas à l'école avec des cahiers. Ils ont aujourd'hui des iPads dans lesquels ils font l'interaction avec le professeur et tout le résumé passe par là. Mais avant qu'on en arrive là chez nous, comme l'a dit Serge, il est temps qu'on fasse la métamorphose dans l'enseignement et pas seulement avec la radio et la télé, mais qui prennent le système de l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons même au niveau universitaire. Je prends l'exemple de Chalina qui a organisé des webinaires. Partout dans la République, on a eu interaction avec des séminaires de médecine où les gens échangeaient. Les écoles peuvent
professeur,
profiter de cela
professeur qui
et
passe
pas à... seulement à cause de COVID. Pensez déjà à la transformation, à la métamorphose, comme l'a dit Serge là.
Docteur Kipassa,
absolument.
Je parlais des professeurs. Docteur Kipassa, en passant, actuellement, même dans plusieurs entreprises, les gens sont en mode télétravail et les réunions se passent par Internet, sur l'application Zoom. Les gens tiennent des réunions sans problème, il y a l'interaction.
Je dis non seulement ça, moi j'ai, comme disent les Anglais, je suis proud, je suis fier de ma radio. Parce que beaucoup d'émissions que nous avons organisées, j'étais avec toi dans le studio, mais maintenant nous organisons ça à distance et parfaitement. Donc vous avez anticipé, et pas seulement dans les services, mais aussi aujourd'hui il y a des radios qui commencent à réfléchir comme vous. Donc qu'on applique ça dans l'enseignement, dans les autres, comme vous avez parlé là des sociétés, qu'on copie, parce que c'est très important, c'est une révolution dans l'enseignement. Il y a moyen de donner des devoirs aux enfants et le suivre, même par interaction. Le cours dans beaucoup d'universités, maintenant, il y a à cause de COVID, se donne à distance.
Voilà, les cours se donnent à distance. On va donner la parole à Hubert Kimbonza, inspecteur au ministère de l'Enseignement, au ministère de l'EPST. Monsieur Hubert, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que Serge et ce que le professeur vient de dire, ce que le docteur Kipassa vient de dire?
Oui, dans l'ensemble, il y a quatre interventions. La toute première, c'est celle émanant de l'Est. En fait, on a pensé que cet enseignement est uniquement pour une catégorie, c'est-à-dire des enfants des riches. Non, si nous avions commencé par Kinshasa, vous savez que Kinshasa a pratiquement les infrastructures, mais aussi est dans de bonnes conditions pour que le travail se fasse sans problème. Mais nous allons vous dire ceci, à partir du mois de janvier déjà, nous allons descendre en province. Et ça, c'est avec, bien sûr, l'autorisation de son Excellence le ministre d'État. L'inspecteur général, chef de corps, est déjà prêt dans ce sens-là. Mais alors, regardez, il n'est pas dit que l'enseignement de la classe télévisée est mauvais en ce qui concerne sa manière d'être dispensée. À la fin des enseignements, si vous vous rappelez très bien, chaque enseignant est appelé à laisser son numéro de téléphone et même le numéro WhatsApp. C'est pour que les apprenants et aussi certains collègues enseignants puissent poser des questions afin d'avoir des éclaircissements. Là, c'est une sorte de feedback, mais un peu retardé. Et pour Albert Mwalanga, les apprentissages à la radio vont continuer. Raison pour laquelle la semaine prochaine déjà, les inspecteurs vont se réunir pour voir comment est-ce qu'on peut relancer au niveau de la télé et de la radio ces types d'enseignement afin que les élèves soient occupés. Pour Anissé qui passe là, il y a le problème d'interaction qui est résolu maintenant. Donc on n'aura plus ces problèmes avec le partenaire. Les inspecteurs vont pouvoir entrer et voir ce qui se passe dans des écoles. La différence avec la classe télévisée, c'est quoi maintenant? Ici, chaque enseignant est maître ou responsable de ses élèves. Il travaille avec eux, comme vous avez parlé ici des Zooms, hein, et il fait avec eux des travaux, ils réagissent, et aussi l'élève ou l'apprenant qui est timide peut facilement, à travers une méthode qui existe, que nous connaissons tous, même par SMS, envoyer la question ou même envoyer l'audio à l'enseignant sans toutefois que les autres apprenants ne soient au courant de sa préoccupation. Donc l'inspection s'est mise au travail et aussi, comme M. Serge l'a dit en ce qui concerne la dépravation de mœurs, l'inspection est à mesure, à partir de la fenêtre qui est créée, à suivre de près ce que les enseignants font avec les élèves. Et il est aussi dit que les différentes notes des apprenants seront directement envoyées aux parents, mais aussi à la direction. En ce moment-là, nous allons aussi réduire les nombres de fraudes, c'est-à-dire de corruption. Un enfant présente son interrogation, directement, la cause qu'il obtient est envoyée aux parents et à la direction.
Oui, M. Hubert, un instant, on va accueillir un auditeur, Olivier de Bukavu. Bonjour. Olivier, bonjour. Il n'est plus là. Voilà, je reviens à vous. Il y a M. Serge qui a parlé d'un programme, une plateforme qui doit être créée, e-class, où il y aura interaction entre les enseignants et les élèves. À quel point, vous êtes à quel niveau avec ce programme-là?
Oui, avec ce programme, nous venons de terminer avec la sensibilisation de la ville-province de Kinshasa. On a été dans les 5 provinces éducationnelles et sûrement la province éducationnelle de Tchangou pose certains problèmes, c'est-à-dire que comme c'était au moment où la grève battait encore son plein, nous n'avions pas pu atteindre toutes les écoles. Nous comptons dans quelques jours revenir dans cette province et au mois de janvier descendre déjà dans la province ou dans les provinces du Grand Katanga. Et après, ça sera le Grand Kivu et ainsi de suite. Donc, Kinshasa déjà, tout le monde est sensibilisé. Maintenant, c'est le travail de terrain qui s'est fait entre agents de la société SmartUp et les enseignants, puis les élèves. C'est-à-dire, il faut qu'on demande, qu'on montre aux enseignants comment ils doivent utiliser leur téléphone smart, en fait, qui ont des Android, comment est-ce que, s'ils ont des ordinateurs, comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser, comment est-ce qu'ils peuvent créer des comptes, comment est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec les apprenants. Et voilà, nous sommes dans cette période-là de la formation sur terrain, celle de la sensibilisation ayant déjà pris fin la semaine passée.
Bien, vous êtes à l'étape de la sensibilisation, donc ça veut dire que le programme est déjà, la plateforme existe déjà, donc voilà. Vous êtes en train de sensibiliser et après, ce programme sera lancé.
Il est déjà lancé à Kinshasa. Si vous allez aujourd'hui, je peux citer une école?
Oui, allez-y.
Bon, merci beaucoup. Si vous allez à Bonsomi déjà, vous allez vous rendre compte que le travail s'est fait. Et si vous allez au niveau de lycée Boyokani, vous allez voir que le travail s'est fait déjà. Nous sommes dans plusieurs écoles déjà pour cette expérimentation qui porte déjà ses premiers fruits parce que nous, l'inspection, bien que nous sommes en congé d'une manière générale, mais les inspecteurs sont en activité, nous sommes en train de voir ce qui se passe dans ces écoles et je vous dis, mais c'est jeudi, que c'est un début, Mais l'année prochaine, je pense que peut-être que nous reviendrons sur ces plateaux et vous verrez que la RDC va muter vers cet enseignement à distance comme étant la deuxième possibilité pour résoudre tous les problèmes que nous connaissons dus peut-être à des calamités, à des guerres, hein, à des pandémies ou
donc
des maladies.
Aujourd'hui, on peut dire que les élèves de Bonsomi étudient déjà à distance grâce à cette plateforme e-class.
On est au niveau de la formation. Ils ont leur numéro de, en fait, leur carte SIM, hein, parce que c'est par Internet. Les élèves sont en train de voir aussi comment les parents peuvent contribuer, parce que n'oubliez pas que la gratuité existe, mais il est aussi dit que les parents doivent mettre leurs enfants dans de bonnes conditions. Les téléphones ne peuvent pas être achetés à l'école ou par les gouvernements, mais les parents doivent mettre pour les élèves qui n'en ont pas encore de moyens avec un $20 l'achat d'un téléphone qui a Android pour leur permettre de pouvoir entrer dans la classe. La condition, il faut avoir un téléphone. Ça, c'est la toute première condition. Et sur terrain, déjà, certains enfants commencent à travailler. Et il est prévu, je peux anticiper, le mercredi, une réunion avec les inspecteurs principaux provinciaux adjoints en charge de la formation de la ville-province de Kinshasa, pour que pendant cette période que les enfants sont à la maison, que l'on puisse entrer en contact avec les chefs d'établissement pour voir si effectivement, à partir de leur maison, les enfants sont en train de travailler. Donc Kinshasa, la période de sensibilisation a pris fin, celle de la formation des enseignants et des élèves est en cours, et au mois de janvier, ça ne sera plus le problème de Kinshasa, nous serons déjà en province.
Bien, comment mieux organiser les enseignements à distance pour les élèves de la République démocratique du Congo? Vous avez des questions et préoccupations, composez le 081 890 63 94, écrivez-nous également à service@radiookapi.net.
Tout sur la santé et le bien-être dans Maïcha Bora. Maïcha Bora, c'est cette émission qui traite de tout ce qui touche aux maladies, à la prise en charge médicale et aux idées reçues sur ces maladies. Maïcha Bora, votre santé et bien-être sont au cœur de nos préoccupations, notre priorité. Tout le lundi à 9h15 et 20h30, en rediffusion le mercredi à 13h30.
Bien, comment mieux organiser, comment améliorer les enseignements à distance pour les élèves de la RDC? En ligne, Olivier de Bukavu, bonjour.
Oui, bonjour Radio Capi.
Quelle est votre préoccupation, Olivier?
Oui, la préoccupation est que je voudrais vous informer qu'aujourd'hui, l'enfant aime voir et toucher. Et quand on nous organise les enseignements à distance, ces enseignements ne donnent pas la matière telle qu'il est demandé. Pédagogiquement, là, nous sommes en train de tuer les élèves sans pour autant savoir. À mon avis, il faudrait pour le président qu'il organise les enseignements, que les enfants aient des cache-nez au niveau des écoles, des lave-nez, et qu'ils partent au mois de janvier à l'école, et ce sont les confinements encore pour les élèves. Car il n'y a pas seulement à l'école où les élèves sont, où les gens sont, ne sont pas en distanciation sociale qu'au marché. En tout cas, on souhaiterait être à l'école. Nous sommes prêts, étant enseignants, pour l'application pédagogique.
Voilà, sur le plan pédagogique, l'enseignement à distance n'est pas favorable pour les enfants. Serge Bondedi, qu'est-ce que vous pouvez dire à Olivier de Bukavu?
Bon, il est vrai. Que je crois que cette question a été même posée lors de la journée du 16 octobre, si l'enseignement à distance pouvait remplacer l'enseignement à présentiel. Nous avions dit non, mais les deux se complètent. Et nous sommes allés même très loin pour démontrer les avantages de l'enseignement à distance sur d'autres aspects pédagogiques. Lorsque on enseigne à un enfant au Congo, là où se situe l'embouchure du fleuve Congo, il faut recourir à l'enseignement à distance, notamment avec Google Maps, par exemple, pour voir où se situe effectivement l'embouchure du fleuve Congo. Donc, les deux types d'enseignement se complètent et forment un tout pour atteindre efficacement le résultat, les objectifs pédagogiques. Ici, nous sommes face à un cas de force majeure. Il faut être flexible. Il faut se donner cette peine d'être en phase, de corroborer avec les défis de l'heure et du moment. Nous sommes face à une situation de catastrophe qui exige à l'État congolais, parce que c'est l'État qui organise la cité. Ce n'est pas la société civile, ce n'est pas le syndicat, ce n'est pas les écoles elles-mêmes. C'est l'État, dans une république normale, qui est appelé à veiller à la santé publique et à l'intégrité physique. Donc nous, Imaïe, nous avons fait ce qu'on appelle l'approche de l'éducation en situation d'urgence. Les enfants ont droit d'être éduqués, mais au moment où se rendre à l'école représente un danger, qu'est-ce qu'il faut faire? L'alternative, c'est l'enseignement à distance. Nous avons évalué, nous avons trouvé les points forts et les points faibles de l'expérience que nous avons eue dans les temps. Il s'est fait montre que le gouvernement congolais, même dans d'autres pays africains, n'était pas suffisamment préparé face à ce genre de situation. Et j'ai apprécié lorsque le professeur Kipasa a dit qu'après guerre, ce sont des moments de grande révolution. Donc, ici, nous sommes face à une situation d'urgence, une situation de catastrophe. L'État n'est pas prendre les dispositions qu'elle a prises, ça serait aussi suicidaire, ça serait exposer les enfants au danger. Mais dans cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? On a opté pour l'enseignement à distance pour préserver la santé des enfants et leur intégrité physique. Mais nous, comme société civile, nous avons demandé à l'État, pouvoir organisateur, de tenir compte d'un certain nombre de particularités différemment des autres expériences dans la classe télévisée, la radio diffusée, les exercices en ligne et consorts, l'interactivité, permettre aux enfants d'interagir avec leurs enseignants.
Mais Serge Bondé dit tout à l'heure, Albert Mwananga de Kananga a dit qu'on devrait continuer aussi avec la radio télévisée, surtout pour les milieux où la connexion Internet peut poser problème. Et puis il a dit si on pouvait diligenter une enquête pour vérifier le taux d'écoute dans les ménages, et cela pourra nous aider à nous faire une idée de l'impact de la classe télévisée et radiodiffusée.
Oui, effectivement, l'enseignement à distance, c'est un tout avec beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a la classe télévisée, la forme que le ministère a mis en exergue, mais vous avez aussi la classe documentée sous forme de médias. Vous avez l'exemple de en Europe avec ce n'est pas sorcier. C'est aussi une forme de la classe télévisée, mais là c'est plutôt l'enseignement ouvert, parce que ça ne conduit pas à la sanction d'un diplôme ou d'un document d'un document scolaire. Donc au même moment, la classe en ligne, à distance avec la plateforme e-class, sera mise en œuvre. Au même moment, les initiatives avec la classe télévisée doivent se poursuivre et doivent même être aussi modélées davantage pour permettre à ce que tous ces outils soient mis à contribution pour permettre aux enfants d'accéder aux apprentissages. Mais par rapport à sa deuxième préoccupation, moi je ne suis pas du gouvernement, c'est au gouvernement de voir dans quelle mesure organiser cela, mais nous pensons que au niveau de la plateforme e-class, ça peut être un peu facile à appliquer, donc le contrôle d'itinérance des inspecteurs, parce que vous avez des terminaux qu'on peut directement identifier, accéder, contrairement à la classe télévisée. S'il faut envoyer les inspecteurs sur terrain, ça serait un peu complexe. Voilà pourquoi toutes ces insuffisances au cours de l'atelier du 16 octobre ont conduit à ce que nous puissions recommander au gouvernement de trouver carrément un fournisseur de la classe en ligne dont les fonctionnalités avec pour lequel les fonctionnalités remplissent tous ces critères recueillis sur base des faiblesses des différentes expériences de la classe à distance. Donc
bien, on va accueillir un auditeur, Serge Bondedi. Il s'appelle Serge Kingi, il est à Kindu. Bonjour Serge Kingi.
Bonjour monsieur le journaliste Jolie Benoît Kachifa, bonjour à tous ceux qui sont en train de nous écouter.
Serge, quelle est votre préoccupation par rapport à la classe, aux enseignements à distance?
Bon, en tout cas, je veux le faire tout avantage et nos désavantages de l'enseignement à distance. Juste, vous savez, monsieur le journaliste, moi, j'avais un petit frère qui étudie au niveau de l'humanité primaire, mais comme leur enseignant a été tombé de bonjour, ils ont changé l'enseignant, mais les enfants n'ont pas encore l'habitude là de se familiariser avec le nouveau enseignant. Et donc, l'enseignement à distance, bien que ça vienne de nous aider pour que les élèves puissent se fortifier plus par rapport aux enseignements, mais moi je trouve qu'il y a un peu quelques retards, quelques irrégularités face comment est-ce que les enfants doivent encore s'adapter plus aux matières dont nous apprenons à l'ère d'école. Pour citer, l'enseignement à distance, moi je trouve que ça se limite tellement dans les centres urbains, les chefs-lieux de la province, mais aussi à Kinshasa surtout. Mais là, moi je vis au village, je vous assure, les élèves comme ça, ils sont maintenant là en train de transporter des briques des enseignants à leur champ, soit on les envoie quelque part là où on ne sait pas, mais en tout cas au village, que l'école les hommes puissent changer pour qu'ils puissent récupérer ces enfants-là qui sont en train de souffrir, soit comme nous sommes en train de respecter les mesures barrières, comme les enseignants ne donnent plus cours. Est-ce qu'ils peuvent formuler un peu de cours d'histoire en organisant le système 10 élèves, ils les apprennent un peu, maintenant ils vont les faire retourner 10 élèves pour qu'on puisse récupérer cette année. Et donc cette question-là, j'adresse ça à Serge là et mon homme qui est là au plateau.
Bien, merci.
Le docteur va pouvoir conclure pour ça.
Merci, donc, merci Serge.
La distribution des Android, les appareils Android,
oui.
Ce n'est pas n'importe qui utilise ça. Ce n'est pas le bon personnage. Comment ils sont en train de songer pour qu'ils puissent distribuer ça, donner les émissions à différentes chaînes radio dans chaque province.
Bon, Serge, on n'a pas parlé de la distribution des téléphones. Il revient aux parents d'acheter pour son enfant un téléphone Android. Monsieur Hubert Kimbonza, vous avez suivi les préoccupations de Serge. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, je commencerai d'abord par celle de Olivier qui nous a appelé à partir de Bukavu.
Oui.
Moi qui vous parle, je suis technicien de formation, ingénieur en électronique, mais nous avons certains logiciels qui nous permettent même de travailler dans les domaines des techniques industrielles sans perturbation ou sans que l'équipement ne soit endommagé. Et ça, c'est un avantage même pour la classe à distance, pour l'utilisation de nos appareils. Les apprenants des filières techniques peuvent travailler aisément, sans difficulté, sans se faire électrocuter, et voir si leurs montages finissent par marcher. Et si ça ne marche pas, il y a des LED qui finissent par s'allumer pour dire que c'est à tel endroit qu'il y a un problème, et en ce moment-là, l'élève finit par résoudre les problèmes. Ça, c'est des 1. De 2, nous avons des vidéos, c'est-à-dire pour cet enseignement à distance, un enseignant qui est dans un atelier d'électricité arrive à faire le montage avec ses élèves, avec les équipements qui sont disponibles, et à partir de ça, on met en ligne. Et là, ça nous épargne aussi. L'enfant a l'avantage de suivre la vidéo, mais aussi de la suivre autant de fois qu'il voudra.
Monsieur Hubert, le grand problème qui va rester, c'est l'accès à Internet et puis les infrastructures, les téléphones que les enfants doivent avoir.
Monsieur Jody, je pense que quand le chef de l'État a dit que nous commençons avec la gratuité, personne ne croyait. C'est pour dire que lorsque l'on veut, on finit par le faire. Et on parle un téléphone Android, je pense qu'actuellement, avec $20, $15 même, on a un téléphone Android, M. Jody. Donc, que l'on ne pense pas que les téléphones coûtent les yeux de la tête, c'est la volonté tout simplement.
Mais au village, pour les parents qui sont au village, c'est tout un budget.
Effectivement, hein, avec ce que nous touchons, vous avez raison, c'est tout un budget. Mais M. Jody, pour l'éducation de nos enfants, nous devons
nous sacrifier.
Sacrifier. Il n'y a pas d'héritage qu'un parent peut léguer à son enfant si ce n'est la connaissance de la parole de Dieu et une bonne éducation. Et enfin, pour ce qui est de M. Serge Kingi, il y a...
Un instant, on va accueillir un autre auditeur, Norbert depuis Arou. Bonjour Norbert.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation par rapport aux enseignements à distance?
Ah vraiment, mais si j'ai dit... Ces intellectuels de Kinshasa doivent savoir que la comparaison n'est pas raison. Parce que nous qui sommes ici au fin fond du village, est-ce que moi qui vous parle, je ne peux pas avoir un téléphone Android? Même un parent, ici au village, le matin, les parents sortent, ils vont au champ, ils vont se retourner la journée. Quand ils auront le temps d'enseigner les enfants, mais je me dis aujourd'hui que c'est une souffrance qui vient s'ajouter sur cette affaire de gratuité. On veut maintenant politiser tout. Hein? On veut politiser tout. Même ici, là où je suis, notre école accueillait 1099 élèves. On a supprimé 6 classes. Maintenant, un enfant de première année, s'il peut faire 15 kilomètres. Hein? Vous voyez, le président aujourd'hui doit savoir que si le président là aujourd'hui, c'est parce que cette unique voix d'une population du village a fait qu'il soit là aujourd'hui.
Norbert, hein? Avec la pandémie, le président a décidé que les enfants restent à la maison. Maintenant, il faut réfléchir sur d'autres moyens pour les occuper, pour qu'ils ne puissent pas oublier toutes les matières. Alors, c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de l'enseignement à distance, qui a été déjà expérimenté avec la classe télévisée et la radio diffusée.
Mais vous ne devez pas comparer Kinshasa au village. Hein, vous demandez aujourd'hui que les enfants s'occupent des élèves à la maison. Est-ce qu'à la maison, les enfants ne peuvent pas attraper cette maladie-là? Hein?
Bien. Merci d'avoir appelé depuis Arou. Monsieur l'inspecteur Hubert, qu'est-ce que vous pouvez dire à Norbert?
Merci beaucoup. Je reviens à la préoccupation de M. Serge Kingi à partir de
Kindou.
Oui. Il y a des irrégularités, pas vraiment, c'est parce que l'État s'est réveillé en retard. La loi cadre, c'est depuis 2014. Nous sommes aujourd'hui en 2020, ça fait 6 ans que nous attendions que la pandémie soit une réalité afin que nous puissions ouvrir les yeux. Donc, nous sommes entrés, c'est une première expérience, nous sommes en train de mettre les batteries en marche et nous pensons très bien que tout ce que les gens pensent comme étant problème ou irrégularité...
Surtout les problèmes d'électricité et la connectivité, ça ce sont des problèmes majeurs.
Les problèmes d'électricité, je pense que il y a ce qu'on appelle des responsabilités à chaque niveau. Le gouvernement est constitué de plusieurs ministères. Chaque ministère doit tout faire pour résoudre son problème. Là, c'est déjà un problème du ministère de l'énergie. À l'EPC aujourd'hui, s'il faut poser la question, qu'est-ce que Willy Bakonga fait? Il va se justifier. C'est la raison pour laquelle ces techniciens ont pensé et trouvé la solution comme telle. C'est une bonne occasion que les autorités des ministères qui s'occupent de ces problèmes de l'électricité et de l'électricité puissent se rendre compte. Mais aussi pour l'Internet, je ne suis pas ici pour faire la publicité des sociétés de la place. Il y a une société qui a l'obligation de faire en sorte que tout le monde à travers la République, surtout là où on a les écoles, qu'on ait cette connexion. On va faire des efforts, nous allons fournir des efforts pour que cela soit une réalité. C'est parce que nous avons cru et nous finirons par effectivement faire en sorte que d'ici là, que les problèmes de la connexion ne se posent pas. Serge vous a dit tantôt que c'est parmi les conditions que la société civile avait posées au gouvernement. On nous avait posé la question, est-ce que l'Internet va coûter comme si nous étions tous à mesure d'utiliser, nous les parents, ainsi de suite. Nous avons dit que l'entreprise qui s'occupe de ces problèmes va tout faire, et l'entreprise a décidé ainsi pour que la connexion Internet pour les écoles, pour les élèves, d'abord je vous informe que les écoles qui acceptent d'utiliser les produits ont déjà la connexion gratuite.
Monsieur Hubert, pourquoi ne pas demander à toutes les entreprises, à tous les fournisseurs d'Internet de baisser les prix comme cette entreprise-là a décidé de le faire?
Je profite de l'occasion pour vous dire que c'est une très bonne proposition. Nous qui sommes là, nous allons proposer des éléments d'enrichissement auprès de leurs excellences et aussi l'inspecteur général et les secrétaires généraux pour cette proposition. Merci. Là, je peux vous dire grand merci.
Bien. Nous vous disons également merci, Monsieur Hubert Kimbonza Sefou, inspecteur au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
Je peux rectifier un peu?
Allez-y.
Oui, c'est Hubert Kimbonza Sefou, inspecteur général adjoint. Je suis inspecteur, bien sûr, oui. Mais ma fonction, c'est inspecteur général adjoint. Merci beaucoup, M. Jordi.
Bonne journée. Nous disons également merci à Serge Bondedi, secrétaire général de l'ONG IMAE et coordonnateur de la campagne École. Et Zamumbongote, tout à l'heure, nous allons suivre les informations et on va, après les informations, on se retrouve pour aborder un autre thème. On va parler de l'impact des sauts des moutons dans la circulation routière. Vous avez des questions et préoccupations, le standard est déjà ouvert. Appelez au 081 890 63 94.